Bonjour, chers amis. C'est un immense plaisir de vous avoir ce matin. Ensemble, nous allons louer le Seigneur. Nous allons déclarer que le nom de Jésus est victorieux.
Aucun nom n'est comme le sien.
toujours compter tes bienfaits quand c'est difficile et aussi dans les bons moments. Gloire à toi, Seigneur. Baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand.
Si tu perds
dans le voyage, plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore.
Compte
les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras
Compte
les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre est grand.
Dans le psaume 95, David nous invite à louer l'Éternel et à l'adorer. Il dit : Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, Prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur.
abandonné ta mort. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix.
Quelques instants pour élever la voix tous ensemble ce matin. Soit que tu sois devant ton écran ou que tu sois ici dans cette salle ce matin, est-ce qu'on peut élever celui qui revient comme on vient de le chanter ? Notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'est pas indifférent à ce que les uns et les autres de ses enfants peuvent vivre. Merci Seigneur pour l'honneur que tu nous fais de ta présence encore ce matin. Merci Seigneur parce que cet honneur, il ne vient pas des belles choses qu'on aurait pu accomplir ou des exploits qu'on aurait pu faire, mais de l'exploit que toi tu as accompli en offrant ta vie à la croix pour nous, Père, afin que nous puissions être réconciliés. Quelle grâce de savoir que le Dieu qui a créé les cieux et la terre s'intéresse à chacun d'entre nous particulièrement encore ce matin. Où que tu sois, tu peux être au bénéfice de cette vie de Dieu ce matin. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci parce que tu es celui qui nous tient par la main et qui nous aide à cheminer et à avancer. Tu es un Dieu en qui on peut faire confiance ce matin. Et s'il y a une église qui est d'accord avec ça, qu'elle puisse dire un grand Amen ce matin. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. On est heureux de pouvoir vivre des moments comme ce matin, des temps de célébration, mais l'EPI, ce n'est pas seulement des célébrations. On va voir dans un instant, c'est aussi des groupes de vie en semaine, mais c'est aussi des événements. Et il y a un événement qui est important pour nous en tant que disciples de Jésus à l'EPI, c'est nos sessions de jeûne et de prière. Et on a la grâce de pouvoir avoir une session de jeûne et prière du lundi 19 au vendredi 23 février. Vous savez, on est tous dans des tumultes. Et parfois, on n'a pas le temps. Puis on se dit, j'ai pas le temps de prier. Mes amis, il y a quelque chose que vous pouvez expérimenter dans la prière. Moi, je l'ai expérimenté. Toutes les fois où j'ai mis en priorité Dieu dans la prière, bizarrement, les choses dans le quotidien se déroulent parce qu'on est câblé sur le bon câble. On sait quel choix, quelle décision prendre. Et ça, ça vient de cette connexion et de ce temps avec Dieu. Donc si tu crois que tu n'as pas le temps pour prier, viens expérimenter le Dieu de la prière du 19 au 23 février avec nous. Alors que tu jeûnes ou que tu ne jeûnes pas, pas de souci. Venez prendre ces temps de connexion aussi pour nous recentrer ensemble sur Dieu. Donc lundi 19 au vendredi 23, de 19h30 à 21h. Un autre événement qui va prendre place. Et là, celui-ci, il est spécifique à nos jeunes et à nos ados. On a à l'Ascension un rassemblement CAP. Le rassemblement CAP, c'est le rassemblement de toute la jeunesse et des ados, des assemblées de Dieu, famille d'église, à laquelle l'EPI appartient. C'est des temps forts. Il y a beaucoup de jeunes ici qui se sont convertis dans des camps, qui ont expérimenté la grâce de Jésus dans des camps. Et pour pouvoir vivre des moments comme ça, il y a besoin de financer parce que en fonction des situations, il y en a pour qui c'est plus difficile de financer. Du coup, notre groupe d'ados cadeaux et le groupe de jeunes adultes s'est associé à notre association culturelle Enjeu pour pouvoir financer ce moment. Et si vous voulez les aider, il y aura une vente de gâteaux qui aura lieu le 18 février. Ça va vous permettre d'avoir un bon dessert, mais de permettre aussi à des jeunes et un peu plus vieux, les jeunes adultes, d'expérimenter encore que Dieu fait des miracles aujourd'hui, que Dieu change des vies. Amen. Amen. Une dernière annonce, et celle-ci, elle concerne les dames. Donc le samedi 9 mars, nous avons notre rencontre Women's Day sur le thème « Soyons toujours prêtes ». En tant qu'épouse, en tant que dame, alors moi j'en suis pas une, mais je connais la mienne, on fait face à des défis, à des challenges dans la vie professionnelle, dans la vie familiale, peut-être pour celles aussi qui sont seules, hein, on fait tous face à des défis. Et il y a Elsa qui est impliquée à Épisode depuis tant et tant d'années, qui est aussi dans l'équipe de direction de Women's Day, qui va apporter ce message. Et vraiment, on a hâte d'entendre les retours des dames sur ce moment. Alors là, il y a déjà plus d'une cinquantaine d'inscrits, mais il y a encore plein de places. Alors s'il vous plaît, mesdames, bloquez cette date dans votre agenda, ça va être un temps fort. Je le crois, un temps spirituel, un temps aussi de fraternité les unes avec les autres, de pouvoir échanger, peut-être de développer des nouvelles amitiés avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que c'est ça aussi l'épi. C'est une connexion verticale avec Dieu, mais on le croit, une connexion horizontale avec des frères et des sœurs pour se soutenir, pour se porter, pour juste s'aimer et vivre ce que Jésus nous a demandé de faire. Amen. Maintenant, je vais laisser la place à Mathieu pour une dernière annonce. Et ensuite, on va avoir un temps pour parler de nos groupes de vie.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. De la part du conseil d'administration, une annonce importante. On voudrait dire merci à chacune et à chacun d'entre vous qui participez de manière financière à pouvoir développer ensemble l'église de l'EPI pour pouvoir permettre à des hommes, des femmes, des strasbourgeoises, strasbourgeois d'entendre l'évangile. Et notamment, je voudrais mettre le focus sur un des investissements qu'on fait et qui permet vraiment aussi de rejoindre des habitants de Strasbourg et de l'Eurométropole. C'est toute notre communauté en ligne. Grâce à vos dons, l'année dernière et cette année encore, nous avons pu investir dans les réseaux sociaux, sites internet, qui sont des lieux de chute très importants, un langage aujourd'hui. Et j'ai juste, pour savoir un petit peu, qui a déjà été connecté à nos réseaux sociaux, au site internet. Levez juste la main une fois pour voir. Voilà, tu vois, donc ça fait quand même pas mal de gens qui vont y piocher. Et puis, il y a même des gens qui ont découvert le Christ. Ils sont allés, ils ont vu une célébration à l'EPI. Puis, ils sont venus voir à l'EPI. Et puis, ils ont goûté combien Dieu est bon. Et donc, ça fait partie des investissements. Et le CA veut vraiment vous remercier. Il y aura plein d'autres choses aussi. On voudra mettre le focus par rapport à vos dons. Mais on voulait vraiment prendre le temps de vous remercier parce que ces dons nous aident vraiment et participent vraiment à ce que Jésus soit connu dans notre belle région d'Alsace aussi. Et pour pouvoir continuer de soutenir, il y a trois possibilités, trois manières sécurisées de pouvoir donner au niveau de l'Église. Vous avez des troncs qui sont là, au fond de cette salle. Vous pouvez donner librement ce que vous avez décidé. Il y a la possibilité aussi de passer par le Hello Asso sur notre site internet. Il y a la possibilité aussi de pouvoir passer par chèque ou virement. Il y a des RIB de l'Église qui sont disponibles au point accueil. Vous pouvez tranquillement, de manière sécurisée, pouvoir le faire et ainsi permettre aussi voilà tout ce qui est lié au soutien des ministères pastoraux, au soutien de la dynamique des enfants, des ados, des jeunes. Il y a tellement de choses. Et voilà. Est-ce que vous pouvez juste vous applaudir parce que vous êtes vraiment en bénédiction au niveau de l'Église. On est dans une célébration spéciale ce matin, une célébration où on veut mettre à l'honneur la notion de vivre en église, la vie d'église. On en parle souvent de cette communion fraternelle. Et une des expressions pour vivre l'église dans la manière vraiment de proximité, ce sont les groupes de vie. Et nous allons avoir un focus, je vais inviter les deux premières personnes à pouvoir me rejoindre. Les groupes de vie, qu'est-ce que les groupes de vie? Est-ce que quelqu'un a jamais entendu parler de ce qu'est un groupe de vie? Allez, puis levez la main, on va pas vous juger, c'est juste pour savoir si ce matin, voilà, levez bien la main là-haut parce que c'est pour vous qu'on fait ce focus-là, levez. Donc, attendez, je vais faire un test quand même. Qui a déjà entendu parler des groupes de vie à l'EPI, levez la main. Donc, il y a des gens qui n'ont pas levé la main tout à l'heure, en fait. Qui a déjà participé, par exemple, à un groupe de vie, un groupe de maison, un groupe repas fraternel ou autre? Donc, il y a plein de personnes ici qui ne l'ont pas encore vécu. Ça va être une grande joie pour nous de pouvoir vous le présenter. C'est l'objet des focus. C'est de pouvoir mettre la lumière sur des aspects de notre vie d'église, de pouvoir vous les présenter et de pouvoir ensuite vous donner aussi envie d'explorer cette expression de l'église. Les groupes de vie à l'EPI, ce sont des personnes qui se rencontrent régulièrement en dehors de la célébration du dimanche matin, généralement en semaine ou le week-end, et ensemble, par centre d'intérêt ou par géographie, vont vivre des temps où ils vont être encouragés dans leur foi spirituellement, faire connaître aussi leur foi autour d'eux par différentes possibilités de grandir dans la foi. On va démarrer, vous pouvez lancer le PowerPoint, les amis. On va commencer avec les groupes de maison. Alors, on a 8 groupes de maison actuellement à l'EPI. Et on a une bonne nouvelle, restez connectés au focus jusqu'à la fin, parce qu'on a une bonne nouvelle. On lance bientôt une formation pour créer des groupes de maison. Mais je suis très heureux d'accueillir Marie-Christine et Yves. Donc, bienvenue, on peut les accueillir.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour. Bonjour à tous et toutes.
Voilà, Marie-Christine et Yves sont référents, animateurs, facilitateurs dans des groupes de maison ici à l'EPI. Yves, la géographie dans laquelle se rencontrent les personnes de ton groupe de maison, c'est où?
Alors c'est le sud, on va dire, de Strasbourg. Hein. Le groupe est à Ilkirch.
D'accord. Et pour toi, Marie-Christine, du coup?
Nous, on est à Königshofen Est et on a aussi des personnes des quartiers ouest de Strasbourg.
Ok. Combien de personnes en moyenne fréquentent vos groupes de maison?
Alors c'est tous les mardis, enfin toutes les deux semaines, le mardi à 20h et on est environ en moyenne une dizaine de personnes.
Et donc c'est vraiment quelque chose à l'échelle humaine quoi,
qui se vit. Oui, tout à fait.
Pour toi Marie, les fréquences et le nombre de personnes?
Oui, alors nous on a un petit peu un groupe de tous les mardis. Tous les mardis on est entre 5, 6 et 10. Puis on a un deuxième groupe, on va dire un peu plus élargi. On a des goûters, des repas, des week-ends et là ça va jusqu'à 25, voilà.
Qu'est-ce qu'on peut y vivre dans ces rencontres, dans ces groupes du côté d'Ilkirch?
Alors du côté d'Ilkirch, c'est l'île au trésor, trésor au pluriel. Alors ça commence toujours par un moment convivial autour d'une boisson chaude ou froide et des gâteaux. Ensuite, on a un moment de louange, chanter, prier. Et puis ensuite, on a un partage. Alors nous, on est assez partage biblique. Je dis bien partage, c'est-à-dire que c'est très interactif. Et puis on termine en général, enfin, par un moment d'intercession. Alors, je voudrais préciser que ce moment d'intercession, en fait, il peut complètement être plus grand que le moment de partage biblique et même le remplacer en fonction des besoins. Donc, on est dans toute cette liberté en fonction des besoins de chacun, de ce qui se passe en temps réel, parce que c'est vraiment du temps réel ce qui se passe.
Marie, du côté de Königshofen et de la dynamique de ton groupe?
Oui, alors on se retrouve dans différents endroits. On a à peu près 6 endroits dans le quartier où on se retrouve. Alors il faut bien suivre, mais heureusement qu'il y a les groupes WhatsApp. Et voilà, donc on explore aussi différentes façons d'aborder le texte biblique puisqu'on a des personnes qui viennent de tous horizons, que ce soit des personnes qui découvrent la foi ou qui fréquentent aussi d'autres types d'assemblées et qui sont autour de nous. Et donc, on explore différentes façons de découvrir, de plonger dans le texte biblique. Et on a souvent des discussions assez passionnées. Et puis, on termine par un goûter. Et puis, de temps en temps, tout au long de l'année, on a aussi des goûters parfois le dimanche après-midi. Et puis, des temps justement où on se rencontre tous. On invite aussi les conjoints, les amis. Et puis, on se rencontre autour de week-ends dans les Vosges, où là, on a plus de temps aussi. On a 2 ou 3 temps spirituels dans le week-end. Et puis, on a aussi des randonnées, des repas qu'on prépare ensemble, des buffets. Donc, c'est assez varié, dynamique.
Justement, Marie, un événement, quelque chose qui, toi, te touche particulièrement dans cette dimension des groupes de vie que tu vis au quotidien avec d'autres ? Un témoignage, quelque chose qui t'encourage ?
Je me souviens qu'il y a des temps qui sont un peu précieux comme ça. C'est quand on fait des week-ends, souvent le dimanche, on fait un brunch parce que chacun ramène et du coup, c'est toujours très varié. Et avant, le dimanche à 9h, on se réunit en petits groupes et on va explorer un texte biblique. Et là, on a aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout la foi, qui ne connaissent pas du tout la Bible, qui n'ont peut-être jamais ouvert une Bible, qui sont là, et qui, des fois, partagent. Et quand ils lisent quelque chose, mais en fait, c'est comme si on redécouvre de nouveaux aspects de la parole qu'on a jamais, auxquels on n'a jamais pensé. Et c'est d'une richesse vraiment incroyable.
Pour toi, Yves, un événement, quelque chose qui vraiment t'encourage, te bénit ?
Alors moi, c'est clairement le fait d'avoir développé un climat de confiance, un climat de bienveillance, un climat d'amitié entre nous, parce que c'est précieux. Et en fait, quand je vous ai parlé d'intercession, c'est qu'on arrive vraiment à s'ouvrir chacun à l'autre et à vraiment partager ces moments de joie et aussi de difficultés. Et donc, on les porte ensemble. Et le fait de les porter ensemble, c'est vraiment précieux.
Il y a différents groupes de vie. Là, on parle des groupes de maison. Si on peut projeter la slide, je voudrais vraiment vous montrer la diversité, la richesse qu'on peut être en Église de l'Épi, la liste de tous les groupes de vie. On a des groupes qui se rencontrent, les mères en prière, pour prier pour les familles, pour prier pour les enfants. On a les repas partage, on a les créatrices, on a les groupes de maison. On a des groupes aussi par centre d'intérêt au niveau de la langue, pour pouvoir découvrir une dimension internationale. Parfois, il y a la langue qui peut être un blocage. Et on a un groupe d'Arméniens qui est là pour accueillir les Arméniens qui viennent et par la langue, leur faire découvrir la richesse de l'Église. On a le groupe des seniors, les aînés, 60 ans et plus. On a la chaîne de prière où on prie pour des sujets en lien avec l'Église. On a des randonnées d'hommes aussi qui sont là. C'est une diversité. Et justement, je vais inviter trois autres personnes pour parler un petit peu de ces groupes par centre d'intérêt, ces groupes de vie par centre d'intérêt, s'ils peuvent s'approcher. On a Jacques qui va représenter la jeunesse dans la vieillesse et la vieillesse dans la jeunesse. On a aussi Anne qui va nous parler des repas fraternels. On a Léa aussi qui va intervenir pour nous parler de créatrice. Et je pense qu'on peut vraiment les encourager parce que c'est jamais un exercice simple de venir partager son cœur. Et comme on est une église encourageuse, bienveillante, voilà, on va commencer avec toi, Jacques.
Je suis prêt.
je sais que tu es prêt. Voilà, dans cette diversité des groupes de vie, on a les rencontres des aînés. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quand est-ce que nos aînés se rencontrent ?
Voilà, rencontre des aînés, mais jeunes aînés, bien sûr, hein, pour dans la tête. Hein. Voilà, donc on se rencontre chaque premier vendredi du mois de 14h30 à 16h environ, donc dans la salle jeunesse, donc pour garder la forme. Voilà, dans la salle jeunesse, voilà.
Et du coup,
à l'épi, voilà.
Un petit rappel pour les aînés aussi. Parfois on dit ah les informations ou quoi. On a vraiment créé un petit flyer pour vous que vous pouvez mettre dans votre Bible, sur votre frigo, sur le calendrier. Le chevet dans la chambre. Et il y a toutes les dates de rencontre qui sont là. Donc, on en aura encore au stand, au point accueil. Vous êtes toujours, vous avez les informations qui vaut si vous avez un doute ou quoi que ce soit. Parle-nous un petit peu du contenu, de ce qu'on vit dans nos rencontres d'aînés.
Voilà, donc chaque premier vendredi du mois, de 14h30 à 16h, donc on se retrouve autour d'un temps, je dirais, traditionnel. Chant, louange, adoration, partage de la parole par l'un des pasteurs et aussi donc temps de prière.
Il y a aussi quelques événements qui viennent ponctuer l'année. Le repas de Noël des aînés, pour moi, c'est un des meilleurs repas de l'année. Et j'essaye toujours de m'incruster tant que je peux parce qu'on a un des meilleurs cuisiniers cuistots de tarte flambée de Strasbourg, Michel Schinner et toute une équipe qui viennent en général aussi le faire. Mais il y a aussi d'autres événements qui viennent ponctuer l'année avec nos aînés.
Donc avec notre sœur Evelyne Schneider, au mois de mai, donc on a une sortie pour les aînés. Donc malheureusement pour ceux qui ne sont pas inscrits, c'est rempli.
Le bus est rempli.
On sera à la Forêt Noire. Et puis donc on pense aussi donc avec la Covid, donc ça a dû s'arrêter, mais on pense reprendre aussi notre petite après notre réunion, le petit Elsassisch Elsa Sicha Café Trinken.
Ouh.
Yaol.
Ben, ça me permet de faire une belle transition voilà. vers les repas fraternels avec Anne. C'est bon, elle a son micro, tout va bien. Anne, merci d'être avec nous.
Avec
les
plaisir.
Repas fraternels, on en est cette année. Tu peux rester. Non, reste avec nous, Jacques. Reste avec nous. Tout va bien, tout va bien. J'ai encore besoin de toi. Tu me sécurises. Tout va bien, tout va bien. Oui, Anne, on revient à toi. Désolée. Les repas fraternels, avec cette deuxième édition qui a cours là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des repas fraternels? En quoi ça consiste?
Alors, il s'agit d'inviter quelqu'un, plusieurs personnes chez soi. Voilà, autour d'un repas, chacun amène une partie du repas. Et puis, c'est vraiment un moyen de se retrouver, d'avoir un temps convivial et surtout voilà, de créer des liens alors que l'église est quand même assez grande. Et voilà, c'est vraiment ce principe-là.
Comment participer à cette dynamique de groupe de vie des repas fraternels?
Voilà, ben, deux ou trois fois dans l'année, on fait un appel. Là, on a fait un appel en décembre et en janvier. Donc, vous pouvez vous inscrire via un bulletin de participation. Expliquer aussi si vous voulez être hôte ou si vous voulez être juste participant, combien de personnes vous pouvez aussi accueillir. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait simplement. Et puis, on vous contacte aussi si on a besoin de précisions.
Les repas fraternels, tu peux nous partager quelque chose qui, toi, t'a marqué, t'a touché, voilà, t'a encouragé par rapport à ce groupe de vie?
Alors, deux choses. Déjà, plusieurs personnes sont venues me voir en disant vraiment, c'est quelque chose qu'il faut reconduire parce que j'ai pu rencontrer des gens. Ça fait quelques années que je suis dans l'église et je ne savais même pas qu'il y avait telle personne qui était là. Et puis moi, personnellement aussi, j'ai pu rencontrer Sandrine, j'ai pu rencontrer Marie-France. Et puis maintenant, on organise aussi ce repas ensemble et... Vraiment, je trouve que c'est une richesse de pouvoir se rencontrer et puis de communier ensemble, de partager des moments aussi autour de la parole. Enfin, voilà, c'est très libre, hein, chacun peut organiser comme il le souhaite.
Une grande église, trois personnes qui ne se connaissaient pas, ouais. se sont rencontrées autour d'un repas fraternel.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, servent le Seigneur ensemble.
Voilà.
Quelle belle histoire. Merci beaucoup, Anne. On va... Ouais, ben, s'il y en a qui va... Ouais, carrément. Merci. On va du côté de Léa, qui est porteuse avec d'autres de cette dynamique de groupe de vie qui s'appelle Créactrice. Et on est très heureux de t'accueillir. Alors là, on peut encourager Léa aussi, c'est pas un exercice simple. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous.
Créactrice.
Oui.
Qu'est-ce ?
Créactrice, ça a été créé il y a 4 ans pour rassembler toutes les femmes de tout âge, de toute situation, pour se connecter vraiment les unes aux autres. Donc ces créatrices, on est créé pour être actrice, pour donner ce qu'on a reçu. Et en fait, on permet à toutes les femmes de se rencontrer.
Et donc il y a différents formats de rencontres, contenus de rencontres. Si tu peux nous en parler un petit peu plus. Oui,
oui. Donc on propose aux femmes de se rencontrer une fois par mois, tous les troisièmes samedis du mois. Donc le prochain, c'est le 17 février. Et donc, il a toujours bien lieu, mais c'est vrai qu'on est pris par la rencontre annuelle actuellement, vous l'aurez compris, Women's Day du 9 mars, où là, c'est vraiment une journée complète. Donc, je reprends juste pour le café, en fait, c'est de 10h à midi. Et donc, les femmes se retrouvent autour d'un café, de gâteaux, pour partager. Donc, c'est Elsa qui souvent apporte un thème particulier. Et ensuite, on partage autour de ce thème et on prie les unes pour les autres. Et ces 2 heures, en fait, sont vraiment faites pour se connecter, s'encourager, et on repart pas comme on est venu.
Et il y a Women's Day.
Et il y a Women's Day, donc là, c'est vraiment une journée de 10h à 16h, avec une intervenante en général, voilà, avec des activités, un repas ensemble. Là, il y a une traiteuse qui vient. Ça se dit traiteuse, je sais pas.
Oui, allez, ça se dit.
On féminise tout chez Women's Day. Et du coup... Voilà, c'est vraiment fait pour qu'en fait les femmes qui sont actuellement, souvent d'ailleurs, des Marthe, j'en fais partie, deviennent des Marie pour vraiment avoir un temps de pause avec Dieu, de connexion avec Dieu, de ressourcement les unes aux autres. Et je suis vraiment trop heureuse d'organiser ce type d'événement. Je sais que c'est le cœur de Dieu.
Ça s'entend. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour vous inscrire. Les inscriptions sont encore ouvertes. Et simplement pour finir, s'il y avait un témoignage, quelque chose qui t'a marqué dans ce groupe de vie, de ce que tu as vécu avec Créactrice ou Women's Day, pour encourager aussi d'autres personnes à vivre cette dimension-là.
Oui, donc c'est il y a 4 ans, en fait, je suis devenue maman en 2020. Et Dieu m'a vraiment mis à cœur d'encourager les femmes. Je savais que devenir maman serait un challenge, d'encourager les femmes qui ont besoin d'être entourées et de relever les défis ensemble. On a besoin d'être entourées. À vrai dire, ça faisait déjà 8 ans que je venais à l'EPI et je n'avais rencontré pas grand monde. En final, hein, je viens, je pars, je viens, je pars. Puis je me suis fait baptiser aussi dans la même année. Enfin, avec le Covid, c'était reporté, mais c'est pas grave. C'était 2021. Et du coup, en fait, créatrice, je l'ai mis en place avec d'autres femmes grâce à Anne Burle. Et ça m'a premièrement bénie parce que du coup, j'ai pu rencontrer d'autres femmes extraordinaires, des femmes inspirantes. Et en fait, c'est elles qui portent ce groupe de vie. Hein. Toutes ces femmes ont vraiment quelque chose à donner les unes aux autres. Il faut qu'on arrête de rester dans notre petit coin. Il faut qu'on se connecte parce qu'on a une grande richesse d'être ensemble. Voilà.
Un grand merci. Est-ce qu'on peut remercier toutes les personnes impliquées dans les groupes de vie à l'EPI ? Merci beaucoup à vous. Dans un instant, on va aussi entendre pourquoi on vit tout ce qu'on vit, mais juste une dernière information. Je vous l'ai dit en début de Focus, on lance une nouvelle formation pour créer des groupes de maison. Si tu peux projeter la slide, s'il te plaît. C'est une formation et on est très heureux de l'avoir parce qu'on veut vraiment un beau maillage de groupes de vie, de groupes de maison dans notre belle Eurométropole. Et pour cela, eh ben, il faut aussi des personnes qui l'ont à cœur et qui peuvent aussi, voilà, donner du temps pour se former. Et cette formation crée un groupe de maison pour qu'on puisse se rencontrer dans les villages et les quartiers pour grandir spirituellement, pour rayonner autour de nous, arrive. Les objectifs, c'est de permettre l'installation et le développement de nouveaux groupes de maison ici à l'EPI. Bénéficier d'un temps collectif dédié pour monter le projet, créer un groupe de maison. L'idée aussi de cette formation, c'est de discerner les besoins, la forme du projet, les collaborateurs, de développer des compétences dans divers domaines, notamment expérimenter différents types d'animation biblique. C'est vraiment une formation de qualité. Il y a du contenu. Le format, dans chaque séance, vous allez retrouver un court enseignement biblique, des ateliers de construction de projets. On va expérimenter différents modes d'animation biblique. C'est vraiment très théorique et pratique en même temps. Des présentations d'outils en lien avec tout ce qu'on a besoin pour emmener et conduire un groupe de maison et faire vivre ensemble un groupe de maison. Il y aura des témoignages, des temps de prière, des temps de discernement. On va écouter le cœur de Dieu sur ce genre de projet. Et il y aura aussi tout un nombre de supports qui seront utilisés, qui seront ludiques en même temps que pédagogiques. Ensuite, il y a 4 thématiques dans cette formation parce qu'on se rencontre 4 fois. On parle de vision, le rêve et construire ce rêve. Organiser et coopérer ensemble. Comment vivre cela ensemble? Prendre soin les uns des autres. Cheminer, grandir et multiplier. Un groupe qui est appelé à se multiplier. Alors, quand et où? Ça sera une formation, 4 samedis de formation action de 9h à 16h en salle jeunesse. Les dates sont déjà communiquées. Vous avez tout un feuillet qui vous redonnera toutes les informations. Une rencontre en mars, une rencontre en avril, une rencontre en mai, une rencontre en juin. Dernière slide, les modalités, l'idée c'est qu'il faut s'inscrire dans le hall ou alors en ligne, vous avez le livret disponible, vous avez un QR code, vous pourrez vous inscrire en ligne. L'idée c'est de trouver un binôme ou un trinôme, de pas commencer un projet en solo. C'est très important, faut apprendre de cela parce qu'on veut être une église où on porte et on vit les choses ensemble. Donc trouver un binôme, soit vous l'avez déjà trouvé, soit on va essayer de vous aider à en trouver un binôme, trinôme, pour pouvoir vivre ce temps de projet, construire ce projet ensemble. Il y aura un premier temps de rencontre avec le pasteur Jérôme Kantelberg de l'équipe pastorale qui vous sera proposé, et puis un deuxième temps avec l'équipe pastorale aussi en fin de formation. On veut vraiment couvrir ça de prière. C'est important, c'est un vrai projet spirituel qui a un ancrage spirituel pour bénir des gens. Alors il faut couvrir ça de prière et d'accompagnement. Et enfin, il faut participer évidemment à toutes les séances. Voilà, les groupes de vie à l'EPI. Ce matin, c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous dire aussi que le stand à la fin, il y aura des personnes, des groupes de vie qui vous attendront. Il y a toutes les informations qu'ils font. Donc rendez-vous au stand, vous êtes intéressés, rendez-vous au stand. Mais on vous a présenté de manière concrète ce qu'on essaye de vivre, mais ça prend racine quelque part. Et ce matin, je suis très heureux de pouvoir accueillir Jérôme qui va nous partager sur une thématique en lien avec Jésus et comment lui vivait le groupe de vie. Alors je voudrais simplement nous inviter à prier parce qu'il y a vraiment quelque chose de fondamental, un fondement pour nous à entendre ce matin en tant qu'église de l'EPI, parce que c'est une pierre pour bâtir l'avenir aussi. Alors que Dieu nous conduise dans ce moment. Seigneur, merci. Merci pour ce temps de groupe de vie, pour toutes les personnes qui le vivent. Tu vois aussi le message, Seigneur, qui va être partagé, annoncé. On te prie que le focus, message, tout ce qu'on va vivre avec la Sainte Cène, avec les nouveaux baptisés, enfin tout ce qu'on va vivre en Église ce matin, soit un ancrage pour vivre cette parole que toi-même tu as dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Merci de nous accompagner ce matin, merci de bénir Jérôme, merci de bénir l'Église et à toi toute la gloire encore pour ce que tu veux faire à Strasbourg et dans toute l'Eurométropole. Amen. Que Dieu te bénisse Jérôme.
Merci Mathieu, merci pour ce focus, tous les référents qui sont là et qui s'impliquent, qui font une différence, on est vraiment content de vivre l'Église de cette manière. Et comme on l'a dit dans le focus, les groupes de vie c'est l'ADN et ça fait partie du cœur de l'EPI. Parce qu'on croit qu'on ne peut pas vivre sa foi tout seul. On croit que tu ne peux pas vivre ta foi tout seul, on croit que Jésus a prévu l'Église pour que tu puisses partager ta foi. D'ailleurs, il y a un verset qui ne va pas être affiché, mais Galates 6, verset 2, qui dit qu'on est appelé à porter les fardeaux les uns des autres. Et on s'entend que pour ça, il faut être plusieurs. Les uns des autres, tu ne peux pas toi seul représenter les uns les autres. Tu dois porter les fardeaux les uns des autres et d'autres doivent porter tes fardeaux à toi aussi. Et juste après, c'est intéressant, le verset 3 nous dit que si quelqu'un pense être une personne d'exception, il se trompe lui-même. En gros, si tu penses que tu n'as pas besoin des autres, si tu penses que tu n'as pas besoin de partager ta foi et de la vivre avec d'autres, alors tu te trompes toi-même parce que tu as besoin des uns et des autres. Alors ma question pour toi, c'est ça, c'est à quoi ressemble ta vie d'église ? Une vraie question à se poser. Quel est ton groupe de vie ? À quoi ressemble ta vie d'église ? Avec qui tu peux partager tes doutes ? Avec qui tu peux partager tes victoires, tes joies, tes peines, tes souffrances ? Avec qui tu partages tout ce que tu vis dans la vie, dans ta foi avec Dieu ? Ce que je propose, c'est qu'on regarde à Jésus. Jésus avait un groupe de vie. Jésus avait une vie d'église. On va regarder dans Matthieu 26, alors que c'est une journée cruciale pour lui. Qu'est-ce qui se passait avec son groupe de vie? Et là, j'entends déjà quelques personnes dire, mais non, Jésus n'avait pas d'église. Il n'y avait pas d'église à ce moment-là. Ça a commencé avec les actes. Ça a commencé quand il y a eu la Pentecôte, etc. Oui, l'église n'était pas encore structurée. Il n'y avait pas encore de bâtiment. Mais Pierre, dans sa première lettre, nous dira, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » En fait, tout le Nouveau Testament insiste sur le fait que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. C'est chacun d'entre nous, on est une pierre. Et une pierre sur une pierre, ça forme une maison, ça forme l'Église. Donc on est là pour aussi suivre ce que Jésus faisait. Donc le groupe de vie de Jésus. Mais avant ça, quelques notions de contexte sur Matthieu 26. Qu'est-ce qui se passe avant ? Qu'est-ce qui se passe après ? Il faut savoir que Matthieu, l'évangile de Matthieu est divisé toujours en une partie discours, une partie action. Discours, action, discours, action. Vous le verrez notamment avec le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7, et après ça part en action. Après un enseignement, après ça part en action. Et Matthieu 26, c'est une période d'action, une période de récit. Matthieu 24, 25, c'est les derniers enseignements publics de Jésus, qui va parler de la fin des temps, d'hypocrisie, vraiment des gros sujets. Et Matthieu 26, c'est la dernière journée de Jésus avec ses disciples, juste avant qu'il se fasse arrêter et qu'il aille à la croix. Et ce qui se passe au début de Matthieu 26, c'est que, premièrement, on apprend que les chefs religieux sont en train de complanter pour arrêter Jésus et pour le tuer. Ce qu'ils veulent, c'est pas juste l'arrêter, c'est l'éradiquer, parce que il commence à l'énerver, là, Jésus, à dire qu'il va détruire le temple, à dire que c'est lui le vrai Messie. Les chefs religieux n'en peuvent plus, ils veulent le tuer. Et juste après ça, il y a le passage de la femme au parfum, qui vient verser un parfum super cher sur Jésus. Et les disciples comprennent pas, ils disent, mais c'est pas normal, on est en train de gaspiller de l'argent, on comprend pas ce que t'es en train de faire. Parce que dans la tête des disciples, Jésus n'allait pas mourir. Jésus allait être victorieux. Jésus allait répondre à des prophéties qui, eux, étaient littérales dans leur tête, comme quoi il allait terrasser les ennemis, terrasser les Romains, terrasser toute la souffrance qu'ils pouvaient vivre. Et Jésus va dire, mais non, elle a versé ce parfum sur moi, parce que c'est par rapport à ma mort, par rapport à ma crucifixion qui arrive. Et juste après, c'est marqué que Judas décida alors de livrer Jésus. Notion avec l'argent. Et là, on arrive avec le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et mettez-vous juste à sa place deux secondes. Jésus a eu un mystère incroyable, il a attiré des foules, il a vécu 3 années avec ses disciples, et là, il sait très bien ce qui arrive pour lui. Il sait très bien que ses 12 disciples, tous vont l'abandonner. Il sait très bien que d'ici quelques heures, il va se faire arrêter dans le jardin de Gethsémané, il va être fouetté, humilié, insulté, il va être tué. Il sait très bien que c'est sa dernière journée normal, sans souffrance, entre guillemets. Et Jésus décide de passer cette journée avec son groupe de vie, avec sa vie d'église, avec sa communauté. Donc on va voir ensemble le premier principe qui part de la vie d'église de Jésus. Le premier principe, c'est que Jésus avait une vie d'église intentionnelle. Matthieu 26, versets 17 à 19. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Il leur répondit « Allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire « Mon heure est arrivée. » C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Première notion qu'on retrouve dans ce passage, c'est que déjà, une vie d'église selon Jésus, ça se vit à plusieurs. En fait, et peut-être tu vas me trouver grossier, mais tu n'es pas l'église. Je ne suis pas l'église. Toi et moi, on est l'église. Et il y a vraiment une différence super importante dans cette notion-là. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens qui sont venus vous voir, qui n'ont aucune vie d'église et qui vous disent « Mais t'inquiète pas, pas besoin d'aller à l'église. On est le temple du Saint-Esprit. » Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi, je me souviens, j'étais ado, j'avais 16, 17 ans, je venais de me convertir et j'étais confronté à quelqu'un. Puis il avait des arguments, puis il disait, mais non, pas besoin d'aller à l'église. La structure, le cadre, ça c'est la religion. Ça, c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait que tu aies l'église. C'est toi partout où tu vas, tu es. Et en fait, ce passage-là, je suis le temple du Saint-Esprit, il était pris totalement hors contexte. Parce que quand tu regardes dans le passage, ça dit que le Saint-Esprit habite en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc, fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ça ne dit pas que tu peux vivre l'église tout seul. Non. D'ailleurs, le mot église, ecclésia, dans tout le Nouveau Testament, il y a différentes définitions, mais il y a à chaque fois cette notion de l'église, c'est se rassembler. Alors, je te pose une question. Est-ce que tu t'es déjà rassemblé toi-même? Ça ne marche pas, il faut être plusieurs. Tu ne peux pas t'assembler toi-même. C'est un peuple, c'est au moins plus qu'une personne qui est appelée hors de s'assembler, être l'église, célébrer Dieu ensemble. Donc la notion, premièrement, que Jésus nous apprend, c'est que l'Église, ça se vit à plusieurs. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas briller tout seul là où tu es dans ton travail. Non, ça veut juste dire que pour vivre l'Église, il faut être plusieurs membres du corps. On l'a vu, on est des pierres assemblées les unes sur les autres pour former un édifice, pour former la maison spirituelle. Et deuxième principe que Jésus nous apprend dans ce même point, c'est que Jésus avait une vie d'Église intentionnelle et organisée. Qui déteste l'organisation? Il n'y a que moi. C'est pas grave. Ok. Okay. Pour ceux qui n'aiment pas l'organisation, en tout cas pour ceux qui sont mauvais en organisation, souvent on ne l'aime pas parce qu'on est mauvais dedans. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que souvent on va bénéficier de l'organisation des autres et nous on ne s'en rend pas compte et on pense que l'organisation c'est facile. C'est un peu comme les enfants. Quand on a tous été enfants, moi j'ai une fille, ma première fille, elle a 4 ans, et en ce moment, on a habité 5 ans au Canada, puis elle nous dit, hey, papa, maman, ça vous dit pas on va au Canada? Et là, on lui explique, on lui dit, ben, ouais, mais c'est pas si facile que ça. Elle me dit, ben si, on prend l'avion, puis c'est bon. On a juste à prendre l'avion, on y va, on fait comme on a fait pour revenir, etc. Et nous, du coup, on lui explique, non, ok, t'as un rêve, mais le rêve s'organise. Faut mettre de côté pour payer les billets, faut prendre des vacances, il faut trouver un lieu pour dormir. Bref, toutes les tâches que les parents apprennent quand ils ont des enfants qu'il faut vraiment mettre en place. OK? Ou alors, une chose simple, tu sais, les personnes qui prêtent leurs chaussettes, qui les lancent dans le panier à linge, qui tombent à côté et qui pensent que ça va se laver tout seul. J'ai déjà fait ça dans mon adolescence. Maman, pardon, je te demande vraiment pardon. Mais non, ça demande l'organisation. Faut prendre le linge, faut le mettre dans la machine, faut mettre la lessive, faut appuyer sur le bouton, et après faut les souris, puis après faut le, etc., etc. Ça demande de l'organisation. Chaque rêve que tu as, en fait, il faut que tu t'organises pour les étudiants. Ça vous est tous arrivé, c'est sûr, de faire une soirée avec des étudiants. T'es fatigué, t'as faim, puis t'as pas envie de te faire à manger. D'ailleurs, il te reste plus rien dans le placard. Et là, tu dis, on va commander un petit truc, on va commander des pizzas. Et là, il y a un petit débat sur ce qu'il faut prendre, des pizzas hawaïennes, ok? Alors moi déjà c'est non, pas de pizza hawaïenne, juste une petite parenthèse, c'est pas une vraie pizza. Bref, je close le débat. Et puis là tu sais pas quelle pizza prendre et là à la fin, il est 23h et tout ce que tu as mangé c'est des chips au vinaigre que tout le monde déteste. Parce que c'est le seul truc qui reste dans le placard. Moi ça m'est arrivé tellement de fois et là ça prend quelqu'un qui dit OK, on arrête de débattre. Je vais commander n'importe quoi mais au moins on va manger à 21h. On arrête de débattre, faut s'organiser. Ou alors avec ma femme, une chose qu'on fait plus qu'on faisait avant qu'il faut pas faire, c'est inviter des gens chez soi sans prévenir sa femme ou son époux. Tu sais, t'es là, t'arrives, ça nous est arrivé, nous, il y a quelques mois. Maintenant, on essaie vraiment d'arrêter de le faire. On a un agenda en commun, donc on se prévient. Mais tu sais, le côté où, hey, ah oui, je t'ai pas dit, dans 2 minutes, il y a des invités qui arrivent, en fait, on va. Et puis là, mais la maison n'est pas rangée, le frigo est vide, on est dimanche, les magasins. Bref, le gros stress, et ça crée un conflit. Et en fait, non, parce qu'il faut s'organiser. Il faut ranger la maison, faut aller faire les courses, il faut cuisiner, il faut mettre la table, il faut dire aux enfants d'être gentils devant les invités. Il faut faire tout ça en même temps. On ne le fait pas. Si, on le fait un peu des fois. Mais ça prend de l'organisation. Et tout ce que Jésus vivait avec ses disciples, ça montre qu'ils étaient organisés. Parce que les disciples vont voir Jésus et disent « Hey, Seigneur, où est-ce que tu veux qu'on fasse la Pâque ?» Jésus dit « Il faut aller voir un tel. » C'est organisé, il faut aller le voir. Il faut aller lui dire qu'on va passer la Pâque chez lui. Il faut acheter le repas, il faut acheter l'agneau, il faut acheter tout ça, il faut préparer à manger. Jésus était organisé. Et souvent, surtout dans notre mouvement d'église, on a souvent mis en contradiction certains concepts. Le côté convivial et le côté organisation. Le côté inspiré et le côté étude ou travail. Souvent, on met ça en séparation, le côté foi, le côté science. Le côté authentique et le côté discipline. Alors que tous ces concepts-là vont ensemble. Si tu veux une relation authentique avec Jésus, il faut que tu disciplines à mettre des temps dans ton agenda. Et là, tu vas développer quelque chose d'authentique avec Dieu. Parce que si tu es juste spontané, tu ne vas jamais prier. Ou peut-être avant le repas. Parce qu'aujourd'hui, l'agenda il est tellement plein, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de distractions que ça ne marchera pas. Si tu veux solidifier ta foi, il faut que tu travailles un petit peu en apologétique, que tu te rends compte qu'en fait, ta foi, tu peux la défendre même avec des scientifiques. Et tu vas te rendre compte que ce n'est pas dissocié, mais que c'est ensemble, que c'est complémentaire. Tu vas te rendre compte que pour vivre la convivialité avec des amis, en fait, il faut que tu investisses dans tes relations. Pareil, il faut que tu mettes à l'agenda, il faut que tu appelles des gens, il faut que tu prennes du temps, il faut que tu t'organises. Et en fait, tout ça, ça va ensemble. Et Jésus le vivait, alors que c'était la personne certainement la plus spontanée, la plus intentionnelle pour créer des relations et investir dans son groupe de vie. Donc Jésus vivait ce principe dans ce groupe de vie. Il s'organisait pour investir dans ses relations avec les disciples. Deuxième principe qu'on voit, Jésus avait une vie d'église authentique. Matthieu 26, versets 20, 23 et versets 31 à 35. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples en furent consternés. Ils se mirent l'un après l'autre à lui demander « Seigneur, ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» En réponse, il leur dit « Celui qui a trompé son pain dans le plat avec moi, celui-là me trahira. » Versets 31-35. Jésus leur dit « Cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. En effet, il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit « Même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi, je ne le serai pas. » Jésus reprit, « Vraiment, je te l'assure, cette nuit même, avant que le coq ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre y affirma, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Jésus, dans son dernier repas avec ses disciples, vient juste ramener le côté authentique de la vie. En fait, toi et moi, on va le décevoir. C'est aussi simple que ça. Jésus, il est avec ses disciples, il dit « Ok, il y en a un qui va me trahir, mais en fait, arrêtez, jugez pas cette personne parce que vous allez tous m'abandonner. » Jésus nous révèle juste qu'en fait, le monde des bisounours n'existe pas. Et peut-être tu viens à l'église pour la première fois, puis tu avais une image du christianisme où les gens mettent leur foi en Dieu pour éviter les problèmes, pour éviter la souffrance, ou pour avoir des relations où il n'y a aucune trahison. Et tu sais quoi ? Peut-être que les disciples avaient cette image aussi de Jésus, parce qu'eux s'attendaient justement à ce qu'ils ne meurent pas, mais qui terrasse la souffrance, qui terrasse ses ennemis. Et forcément, un leader comme ça, tu ne veux pas le trahir. Tu le veux à tes côtés. D'ailleurs, les disciples, ils étaient pendant les 3 années de ministère, ils étaient juste à fond. « Seigneur, est-ce que tu veux qu'on aille défoncer les Samaritains ? Est-ce que tu veux que... » Ils étaient à fond, ils étaient corporate, ils étaient intègres avec Jésus. Mais là, Jésus leur dit « Non, mais en fait, vous allez tous m'abandonner. » Certainement à cause de la vision erronée qu'ils avaient de Jésus. Mais Jésus nous révèle juste qu'en fait, l'humain est fragile. On est tous vulnérables, on est tous rempli de défauts. On va tous décevoir Jésus un jour ou l'autre. Et ce n'est pas le seul tabou qui va briser. Jésus avait une vie d'église authentique. Et j'ai juste fait une liste de ce que j'avais dans ma tête, des sujets que Jésus a abordés. C'est juste fou. Jésus a abordé tout ça dans les évangiles. L'argent, le sexe, les relations, le divorce, la mort, la maladie, la guérison, la prière, les disciplines, la religion, l'hypocrisie, la souffrance, la vie après la mort. Désolé pour les traducteurs, mais là, il faut enchaîner pour montrer qu'il y en a beaucoup de sujets, ok? L'investissement, les trahisons, le jugement, la fin des temps, les origines, la paix, les craintes, les enfants, la famille, la construction. Je reprends mon souffle. Les persécutions, les meurtres, le deuil, la fatigue, le repos, la colère, la pauvreté, les impôts, la politique, la propriété, les crédits, les hypothèques, et tout ça, j'en ai oublié. Jésus a adressé tous les sujets. Il a certainement adressé le sujet que tu es en train de traverser aussi. peu importe ce que tu traverses, Jésus en a parlé, Jésus a quelque chose à dire. Et Jésus n'a pas juste quelque chose à dire, il veut intervenir, il veut t'aider, il veut te conseiller, il veut être avec toi dans tout ce que tu traverses. Et de la même manière qu'il a dit que Judas allait le trahir et qu'il a dit que tous les autres allaient l'abandonner, et notamment Pierre, il sait très bien que tu vas chuter dans pas longtemps, que je vais chuter dans pas longtemps. Parce que la vérité, c'est que on aimerait tous ne pas pécher. On aimerait tous suivre Dieu puis juste avoir aucune faille. Mais Jésus, en fait, connaît nos chutes passées, présentes et même futures. Jésus connaît tout de nous. Il sait quand on va l'abandonner, il sait quand on va le trahir, il sait quand on va céder à la tentation. Et combien de fois j'ai dit, je ne sais pas vous, peut-être je suis le seul, mais je ne pense pas, combien de fois j'ai dit à Dieu après avoir chuté ou après avoir... Seigneur, c'est la dernière fois que je le fais. Seigneur, c'est la dernière fois que je m'énerve aussi vite avec mes enfants. Seigneur, c'est la dernière fois que je communique mal avec ma femme. Ou même comme Pierre, Seigneur, je ne t'abandonnerai plus jamais. Regarde-moi, Seigneur. Tu as l'homme spirituel parfait devant toi. On aimerait tous être comme ça, mais en fait, non. On fait des promesses qu'on ne tient pas. Seigneur, je vais arrêter de manger deux fois du dessert. Mais c'est tellement bon. Nous, le défi avec l'équipe pastorale, c'est qu'on habite en face de Lidl. Et c'est pas cher, du coup, voilà, en tout cas. On déçoit Jésus, puis Jésus le sait. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a un mot clé dans le passage où Jésus, en fait, vient juste nous encourager, il vient juste nous rassurer que, je sais que vous allez chuter, mais regardez, verset 32. Néanmoins, ce néanmoins-là, c'est ce qui te sauve à chaque jour. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et ce que ça veut dire, c'est Jésus, en fait, il est en train de te dire, je sais que tu vas chuter, mais là où ton péché va abonder, ma grâce va surabonder. Je sais que tu vas chuter, je sais que tu veux me suivre tout ton cœur, mais je sais que la chair est forte aussi. Mais quand tu vas chuter là, quand tu vas te tromper ici, ma grâce va toujours surabonder. Donc, garde les yeux fixés sur moi. Ma grâce sera toujours plus grande, plus forte que ton péché. Elle sera toujours plus forte que le jugement que tu te mets toi-même, des fois. Jésus avec ses disciples était authentique sur tous les sujets. Et c'est exactement ce qu'on veut vivre à l'EPI avec les groupes de vie. Un espace où on parle de tout. Il y a différents groupes en fonction des centres d'intérêt, tout ça. Mais c'est un endroit où on veut aborder tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de tabou. Avec Jésus, il n'y a pas de tabou. Mais par contre, on veut toujours finir avec la grâce. La grâce qui est plus forte que tes failles. La grâce qui est plus forte que mes erreurs, que tes défauts. La grâce qui est plus forte que tes chutes, que mes chutes. La grâce, néanmoins. C'est le mot qui définit à chaque fois l'action de Dieu dans ta vie. Néanmoins. Néanmoins. Je vais te relever. Troisièmement, je termine avec ce point. Il y a l'équipe de louange qui va pouvoir revenir. Jésus avait une vie d'église centrée sur la bonne nouvelle. Verset 26-28. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez ceci et mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il a été versé pour beaucoup d'hommes. Il va être versé pour beaucoup d'hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés. » Le groupe de vie de Jésus, la vie d'église, la vie communautaire de Jésus était centrée sur une chose. Sa mort et sa résurrection. C'est le message le plus important de la vie de Jésus et le plus important de la Bible et le plus important pour toi dans ta vie. D'ailleurs, on pourrait croire, et puis l'erreur qu'on pourrait faire, c'est juste croire que la croix, ce qui s'est passé à la croix, c'est juste une bénédiction de plus. Oui, c'est une bénédiction, mais en fait, c'est la bénédiction qui t'ouvre les portes à tout l'héritage que tu as en Jésus. Dès la Genèse, la croix est prophétisée. Et à plusieurs reprises, les prophètes vont juste dire « Celui qui a été annoncé arrive, le Messie. » Et le Messie, sa mission principale, c'était quoi? C'était pas juste de faire des guérisons, c'était pas juste de nourrir des foules, non. C'était d'aller à la croix pour leur permettre d'être reconnectés avec Dieu. La croix, c'est l'élément principal de la Bible et de ta vie. C'est la mission principale de Jésus. C'est le cœur de Dieu. Et le théologien Don Carson l'explique ainsi, hein, un excellent théologien du Nouveau Testament. Avons-nous reçu le précieux don de l'Esprit ? Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Jouissons-nous de la communion des saints, l'Église ? Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Recevons-nous la consolation divine dans cette vie et face à la mort ? Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Dieu veille sur nous dans la fidélité, la providence et la miséricorde à cause de son alliance. Christ nous en a acquis le privilège sur la croix. Sommes-nous remplis d'espérance dans l'attente de la félicité céleste à venir ? Christ nous l'a acquise à la croix. Tout part de la croix. Puis on pourrait citer toutes les promesses que Dieu t'a faites. C'est par la croix. C'est par sa mort et sa résurrection. Puis on va prendre la Sainte Cène ensemble ce matin, notamment aussi avec les nouveaux baptisés de la semaine dernière, pour vraiment marquer le coup, puis les accueillir, puis on est vraiment content du choix que vous avez fait d'ailleurs. Vous pouvez vous avancer justement devant, au niveau des chaises. Prends la Sainte Cène, et juste une petite réflexion, je termine avec ça, sur la signification de la Sainte Cène. C'est au moment de la Pâque que Jésus là va prendre la Sainte Cène, et puis la Pâque, ça fait référence à la fête des pains sans levain, quand le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont été libérés, la première fois qu'ils ont instauré cette fête, ils ont dit, ok, ça va être une fête d'une semaine, puis c'est Dieu qui l'a instauré, c'est une fête importante, pour se rappeler justement de la libération d'Égypte, la libération de l'esclavage. Et ce qui se passait, c'est qu'on prenait un agneau, qui était la pièce centrale du repas. On le vidait de son sang, et on prenait la carcasse de l'agneau, et on le mettait en plein milieu. Et c'était l'élément central, et on se partageait l'agneau. L'agneau qui symbolisait justement le sang de l'agneau qui a été mis sur le linteau de porte, qui a juste écarté la colère de Dieu, notamment pendant l'épée d'Égypte. Et ce que Jésus fait à travers la Sainte Cène, c'est qu'il va prendre du pain, il ne prend pas un agneau, il prend du pain sans levain. Il est légèrement dire que si Jésus remplace l'agneau par du pain, c'est qu'il s'identifie lui-même comme étant l'agneau. Le sacrifice parfait qui te pardonne de ses péchés. Et il est en train de dire, en fait, plus besoin de sacrifier des animaux. Je suis le sacrifice ultime. Donc Jésus est l'auteur de ton salut, du pardon des péchés. Deuxièmement, la signification du pain, elle est super importante. Je peux commencer à jouer. La signification du pain, c'est qu'elle est tout légèrement dire que Jésus s'identifie comme étant la manne du ciel, le pain de vie. Donc non seulement Jésus est l'auteur de ton salut en étant l'agneau, mais à travers ce pain, il est en train de dire, en fait, je suis ta grâce quotidienne. C'est-à-dire, tu n'as pas juste besoin de moi pour le salut, tu as besoin de moi pour vivre à chaque jour le pain quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la manne, en fait, ça descendait, c'est de la nourriture qui descendait miraculeusement avec des cailles du ciel pour nourrir quotidiennement le peuple. Et si tu gardais la manne pour le lendemain, elle périmait. Il fallait que tu la manges à chaque jour. À chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus s'identifie comme étant ce pain quotidien. Troisièmement, jamais dans le Nouveau Testament, on va voir l'Église, on va voir un chrétien prendre la Sainte Cène tout seul. Et c'est fort comme signe. Tu ne peux pas prendre la Sainte Cène tout seul, parce qu'en prenant ce pain et ce vin, en fait, c'est oui, tu te rappelles que Dieu est l'auteur de ton salut, que Dieu est celui dont tu as besoin chaque jour, mais en fait, ça te rappelle aussi que celui qui est à côté de toi, c'est la même chose, et Christ est mort pour lui. C'est le corps de Jésus brisé, et c'est qui va devenir son corps après ? C'est l'Église, le corps de Christ. Donc troisième aspect, on l'apprend ensemble parce qu'on se rappelle que Jésus est mort pour mon voisin aussi et que mon voisin a besoin de la grâce de Jésus, comme j'en ai besoin. Quatrièmement, ça c'est Paul qui va le dire dans Corinthiens, il y a un aspect missionnel à la Sainte Cène. Paul va dire, quand vous prenez la Sainte Cène, vous annoncez la mort de Christ, non, c'est même Jésus qui va le dire, vous annoncez ma mort jusqu'à mon retour. Et en annonçant sa mort, il y a le côté missionnel, il y a le côté, en fait, on se prend ça, puis ça nous rappelle qu'en fait, on n'est pas là juste pour nous. Et c'est aussi la vision des groupes de vie, on n'est pas là juste pour nous. Combien de personnes, puis vous pourrez discuter notamment avec Marie-Christine, combien de personnes qui ne connaissent pas Dieu arrivent dans ce groupe-là, alors qu'ils vivent, ils vivent une vie d'église, mais il y a des gens qui arrivent, qui découvrent Dieu au travers de ça, et c'est ce qu'on veut vivre avec les groupes de vie. Et c'est pour ça que tu as besoin des gens aussi, parce qu'on est beaucoup plus fort à témoigner quand on est plusieurs aussi. Donc on va prendre ce pain et ce vin, on va juste attendre encore quelques secondes pour tout le monde et les éléments, mais qu'on puisse juste avoir ça en tête. Jésus est l'agneau immolé, Jésus est l'agneau qui me pardonne, Jésus est mon pain de vie à chaque jour. Jésus est celui qui est mort aussi pour les gens qui sont autour de moi, pas juste moi. Et Jésus m'appelle à annoncer sa mort. Jésus m'appelle à briller. Jésus m'appelle à briller là où je suis, dans la société, dans mon quartier, dans ma cité, dans ma maison, dans mon travail. En fait, la Sainte Cène résume la vie chrétienne. On va juste prendre ce vin, ce pain et ce vin ensemble. Je vais prendre avec vous, qu'on puisse se rappeler. On va prendre premièrement le pain et se rappeler qu'en fait, Jésus est le pain de vie. Jésus est l'agneau. Prenons le pain ensemble. Seigneur, on veut te remercier pour ta mort à la croix. Je te remercie pour ton corps qui a été brisé. Alors qu'à la base, on prenait un agneau, il y avait cette carcasse, en fait, c'est ton corps qui est au milieu de nous aujourd'hui et qui témoigne que tu es mort pour nous, qui témoigne que ton sang a versé, qui témoigne que tu es mort pour le pardon des péchés de beaucoup. Je veux te remercier pour ça, Seigneur. Je veux te remercier pour ton sang également. Celui qui purifie, celui qui nous donne une identité nouvelle, celui qui nous fait devenir enfants de Dieu. Merci pour son sang, Seigneur. Alors qu'on boit ensemble la coupe. Seigneur, on veut juste passer un temps ce matin où on s'est rappelé. C'est quoi pour toi les centres d'intérêt, les centres prioritaires dans ta vie d'église avec tes disciples? Et on veut le vivre ce matin ensemble. Et on veut le vivre aussi en petit groupe par la suite. Je te prie que personne soit seul ce matin. Je te prie que chacun puisse trouver son groupe de vie comme toi tu l'avais avec tes disciples. Je prie que chacun, Seigneur, puisse porter les fardeaux les uns des autres comme toi tu le faisais avec les disciples. Et tu vas leur demander, notamment d'ailleurs après à Gethsemane, quand tu vas leur dire, venez prier pour moi, ça va pas. Même toi, tu as été vulnérable à ce point, Seigneur, qu'on puisse vivre la même chose ensemble. Et surtout que notre groupe de vie soit centré sur ta bonne nouvelle. Sur la croix qui est centrale pour notre salut, mais aussi pour notre grâce, pour ta grâce quotidienne sur notre vie, pour la mission à laquelle tu nous appelles. Merci mon Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton alliance. Et merci de nous permettre de briller malgré nos chutes, malgré nos failles. À toi toute la gloire Seigneur. Alors qu'on va prendre ce chant, on puisse se rappeler encore ce que tu as fait à la croix Seigneur. Et puis répondre à ton appel d'être des lumières là où on est. Au nom de Jésus. Amen.
Dieu. T'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Allez, allez.
Quel bon moment, mes amis. Maintenant, on aimerait prendre un petit temps aussi. Je vais inviter le conseil spirituel à s'approcher pour offrir un petit cadeau à nos baptisés de la semaine dernière. On a envie de vous offrir une Bible d'études comme on le fait à chaque fois à l'épi. Le psaume 119 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Notre désir, c'est que vous puissiez faire de la Bible votre nourriture solide. Votre nourriture solide. Et ce qui est intéressant avec la Bible, c'est qu'on est invité à la lire personnellement, mais on n'est pas invité à la vivre seul. Le principe des réformateurs, c'est sola scriptura, les écritures seules, et pas solo scriptura, je les lis tout seul. Et donc pour ça, pour vivre cette communauté, bien sûr, il y a le dimanche matin, mais il y a les différents groupes de vie, comme on a pu voir un focus. Et vraiment, on encourage chacun, chacune, et nos baptisés particulièrement, à trouver un espace, un groupe de vie où vous allez pouvoir grandir. Donc on est heureux de pouvoir offrir ces bibles d'études et que ça puisse contribuer à faire d'eux des disciples qui vivent l'Église. Et je vais demander à Thierry de Sanga s'il veut bien prier pour nos baptisés et pas les priser.
On a été brisé. Oui, Seigneur, quelle grâce que tu nous as faite à tous et à nos nouveaux baptisés, Seigneur, d'aller jusqu'au bout de leur formation et de s'engager avec toi. Seigneur, c'est une union avec toi. Ça a été un acte public. Et Seigneur, merci parce que toi-même tu as dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Seigneur, tu vois, comme nous l'a partagé Jérôme tout à l'heure, tu connais, Seigneur, tous les défis qu'ils auront à relever. Alors merci, Seigneur, parce que ta promesse, elle est certaine. Tu as dit que tu seras avec eux, avec chacun d'entre nous, mais avec eux en particulier, tous les jours de leur vie. Seigneur, que tu puisses les aider à avoir leur oreille sensible à la présence de ton esprit, pour qu'ils puissent reconnaître la voix du bon berger, ce bon berger qui veut les conduire dans de verts pâturages. Ce bon berger qui veut les défendre jour après jour contre l'ennemi de leur âme. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, parce que tu as rajouté, Seigneur, à l'épi, Seigneur, de nouvelles personnes. Seigneur, de nouvelles personnes qui s'engagent avec toi. Alors, Seigneur, nous te prions aussi pour nous-mêmes, afin que tu nous donnes, Seigneur, de les aider à grandir dans ton amour, à grandir dans la connaissance, dans la crainte de ton nom, Jésus. Seigneur, vraiment, nous les bénissons chacun. Qu'ils soient sel et lumière partout où ils seront. En premier, dans leur famille et autour d'eux, Seigneur. Donne-leur aussi, Seigneur, cette sensibilité dans la difficulté, qu'ils puissent se tourner aussi vers l'Église pour obtenir le secours dont ils auront besoin. Seigneur, nous les bénissons en ton nom. Que ta grâce coule sur eux jour après jour. Que ta bonté, Seigneur, les soutienne. Seigneur, que ta fidélité, Seigneur mon Dieu, soit leur ancrage en toi. Et Seigneur, qu'un jour, dans ta présence, qu'ils puissent entendre, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton Maître. Amen.
Bienvenue à la maison. Voilà une dernière annonce. Vous avez été interpellés parce que vous avez vécu ce matin. Il y a des choses qui vous tiraillent. Il y a une équipe qui va se tenir à vos côtés, sur mon côté gauche, là, ce matin, pour prendre du temps de prière, d'écoute avec vous. Donc, si c'est votre cas, vous avez été challengé, n'hésitez pas à profiter de ce moment. C'est vivre l'Église ensemble aussi. Donc on demandera au rang le plus à gauche de libérer l'espace pour que l'intimité puisse se vivre. Une autre info aussi, vous avez été interpellé concernant les groupes de vie, vous êtes intéressé, vous vous posez des questions. Il y a une équipe qui va se tenir à l'arrière, là-bas, au niveau des tables, au niveau du rideau noir. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a les responsables de groupes de vie, de maison, qui seront là pour répondre à vos questions. Voilà, est-ce qu'on peut se lever une dernière fois tous ensemble pour louer Jésus et le remercier pour cette célébration ? Père éternel, on te remercie parce que tu es ce Dieu vivant qui nous appelle à vivre les relations ensemble. Et Seigneur, on veut se laisser encore challenger par ce qu'on a entendu ce matin, Père. On veut être cette vie, cet organisme vivant qui est organisé pour permettre aux uns et aux autres de vivre, Seigneur, l'impact que tu veux que nous ayons avec toi, mais aussi avec les autres. Alors je te prie pour ce qui a été déposé sur nos cœurs ce matin, Père, qu'on puisse partir avec ça, serrer ça contre notre cœur, et puis réfléchir dans quel niveau, dans quel domaine tu veux peut-être que nous nous impliquions au niveau d'un groupe ou autre chose, Père. Mais vraiment, on veut être l'Église, Seigneur, ton Église, ton corps, ce rassemblement de ceux qui sont rachetés. Merci Jésus pour ton sacrifice, merci pour l'espérance que tu as mis en nous, merci pour la joie et les amitiés, Seigneur, que tu vas encore développer entre nous, Père. Au nom puissant de Jésus, amen. Et on n'oublie pas nos internautes, il y a toujours de la place dans la salle pour nous rejoindre. Bon dimanche à tous et à toutes.